On remarque que des 830 millions de travailleuses, 80% travaillent dans des pays d'Afrique et d'Asie. Donc c'est surtout un problème de pays à bas revenus, même si on trouve aussi des cas où certaines catégories de travailleuses sont aussi exclues dans la législation nationale et dans la pratique aussi dans des pays riches. Mais on voit que, en ce qui concerne l'Afrique, il s'agit de l'absence de système de sécurité sociale efficace qui arrive à couvrir la plupart de la population des travailleurs. Et quand on parle de travailleurs, on parle bien sûr de toutes les formes de travail, pas seulement le travail dépendant formel, salarié, mais aussi le travail indépendant, informel, le travail dans l'agriculture, les populations migrantes et aussi ceux qui ont des contrats saisonniers ou à durée déterminée. Celles-ci sont les catégories des travailleurs plus souvent exclues dans la loi et dans la pratique.
Parce que, en fait, ce sont des secteurs qui sont, disons, moins sujets à réglementation.
Exactement. La loi, souvent, les exclut explicitement de la couverture, même si on trouve des exemples de pays qui les couvrent, même juridiquement. Et ça, c'est un premier pas. C'est important d'avoir déjà une reconnaissance formelle que ce type de travail demande une protection autour de l'accouchement. Donc, c'est un droit fondamental auquel tous les travailleurs, indépendamment de leur de contrat et de la forme de travail, ont droit à une protection de santé et une protection économique. Parce que même les travailleurs qui ne sont pas payés, qui sont dans l'informel, s'ils doivent s'arrêter de travailler pour prendre soin de leurs enfants et de leur propre santé, cela engage une perte de revenus.
Selon le BIT, 74 pays prévoient des prestations en espèces correspondant à au moins 2/3 des revenus pendant au moins 14 semaines. Et en fait, c'est une hausse par rapport au passé.
Oui, on a vu que même par rapport à notre dernière revue législative, cela représente une hausse parce qu'il y a une tendance générale à l'échelle internationale vers en fait des législations qui sont en ligne avec les conventions de l'Organisation internationale du travail au sujet de la protection de la maternité. Donc on voit qu'il y a un effort de reformuler les lois pour donner des congés plus longs, d'une durée plus adéquate. Et là, on est en train de parler du standard minimum de l'OIT de 14 semaines avec le paiement de 2/3 des gains antérieurs. Donc, on progresse de ce point de vue-là.
Et dites-moi, du côté de la paternité, est-ce qu'on observe des progrès?
Tout à fait. Au niveau de la paternité et du congé paternité aussi, on a assisté à une progression de lois, de nombre de pays qui octroient un congé de paternité dans les derniers 20 ans. Ça représente un progrès de 20% à l'échelle internationale et même si on regarde que l'Afrique, ça représente une augmentation de 15%. Et on voit qu'en Afrique, déjà, il y a beaucoup de pays qui, dans leur droit du travail, ont des lois qui reconnaissent l'importance des événements familiaux dans lesquels la naissance d'un enfant. Ça réfléchit une tradition, un aspect culturel de ce pays pour lesquels on valorise beaucoup les événements communautaires et familiaux. Cela est important et nous, on a comptabilisé ces lois. Toutefois, il est important de spécifier qu'il faut des congés exprès pour la naissance d'un enfant. Parce que ces congés qu'on a comptabilisés, par exemple, beaucoup de pays africains ne sont pas exclusivement pour la naissance d'un enfant. C'est pour aussi des enterrements, des mariages, etc. Donc, il est important que des congés dédiés à cela soient aussi octroyés au père et qu'ils soient d'une durée conséquente parce qu'on voit aussi dans les pays africains qui ont cette législation que la plupart donnent des congés qui sont inférieurs à 2 semaines. Et on voit que pour que la loi ait une incidence dans la redistribution des responsabilités familiales et donc que les hommes soient plus engagés dans le soin des enfants, que ces congés soient d'une durée d'au moins 2 semaines.